When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 31 mai 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Alors, ouvrons l'armoire, voilà, pas besoin de fouiller, l'extrait que je cherche est juste devant moi, puisqu'on l'a diffusé dans l'épisode d'hier. À propos des canons César, les plus modernes de l'armée française, notre journaliste Sébastien Pommier nous disait ceci.
Ils sont capables de tirer 6 coups à la minute, donc 6 fois 6, 36 obus en une minute. Ils peuvent atteindre une cible à 40 km avec une précision de 40 mètres, soit un demi-terrain de football. Comme le disait un général lors de la visite, ça nettoie la plaine.
Si vous avez écouté cet épisode, vous savez que 12 de ces canons ont été envoyés en Ukraine en soutien aux troupes du président Volodymyr Zelensky. Et la France n'est pas la seule à partager ses équipements les plus performants. Il y a aussi les États-Unis, l'Allemagne, la Turquie ou encore le Canada. Les livraisons s'intensifient et les objectifs des Occidentaux sont de plus en plus clairs.
La Russie n'a pas réussi à atteindre ses objectifs stratégiques. L'Ukraine peut gagner cette guerre.
We believe that they can win if they have the right equipment, the right support.
Une partie de l'Occident, les Américains notamment, pensent que il faut que Poutine perde la guerre. En clair, que les Ukrainiens la gagnent.
Certains diplomates avancent même un calendrier et prédisent une contre-offensive ukrainienne après l'été. Pour savoir si cette hypothèse est crédible, je vous propose un épisode un peu spécial. Depuis quelques semaines, je note toutes ces petites phrases qui laissent entendre que l'Ukraine peut gagner la guerre, pour ne pas les oublier, et surtout pour les soumettre à Johann Michel. Je vous rappelle rapidement qui c'est avant qu'il ne décroche. Il est chercheur analyste à l'International Institute for Strategic Studies et spécialiste des questions militaires. Vous l'avez déjà entendu dans un épisode sur le corridor de Zouelki.
Allô ?
Bonjour Johann Michel, c'est Xavier Yvon à La Loupe.
Oui, bonjour, comment allez-vous ?
Ça va et vous ?
Plutôt pas mal de boulot, mais ça va.
Je vous appelle pour faire le point. J'ai noté toutes les déclarations récentes des responsables militaires de plusieurs pays, ou même de l'OTAN, selon lesquelles l'Ukraine peut désormais gagner la guerre, et on voudrait passer cette hypothèse à la loupe avec vous.
Bah avec plaisir, sauf que ça veut dire quoi exactement gagner la guerre dans ce cas précis ? Parce que l'Ukraine reprend la totalité du Donbass, puis la Crimée, elle rentre à Moscou, ou est-ce que gagner la guerre, c'est faire en sorte qu'elle s'arrête maintenant ?
Alors c'est une bonne question.
Oui, c'est une bonne question, mais du coup, vous aviez raison. Je pense que ça vaut le coup d'en faire un épisode.
Ok, je vous propose qu'on commence par un point sur l'état des troupes. Sur quoi on s'appuie aujourd'hui pour dire que l'Ukraine peut battre la Russie sur le champ de bataille ?
On s'appuie sur plusieurs choses, notamment la situation générale des fronts. Quand je dis des fronts, c'est parce que voilà, depuis le début de cette phase de la guerre, depuis février, on a eu plusieurs fronts qui ont été ouverts par la Russie. Et la première chose, et c'est assez évident, la Russie a complètement été repoussée du nord et du nord-est du pays. L'Ukraine parvient même à remporter des succès limité mais notable autour de Kharkiv.
Après plusieurs semaines de combats, Kharkiv porte les stigmates. Les soldats respirent, ils ont repoussé les troupes russes.
Puis il a repoussé les forces russes au nord de Kiev, jusqu'à les raccompagner à la frontière biélorusse.
À 20 km de la frontière russe désormais, ce sont les chars ukrainiens qui occupent le terrain. Ces villages viennent d'être libérés.
La capacité également de bombarder la Russie directement avec des hélicoptères d'attaque. On n'avait pas imaginé que l'Ukraine résiste aussi bien. Et du coup, en fait, c'est le problème. On voit aujourd'hui des succès limités de l'Ukraine et on analyse tout ce qui se passe avec le prisme de cette surprise initiale. Et il y a un risque de suranalyser quelques éléments positifs pour aller trop loin, entre guillemets, dans l'analyse. Et ça, c'est peut-être ce qui conduit une partie des observateurs aujourd'hui à surinterpréter certains éléments. Et donc, du coup, on parle trop de victoire. Mais il y a clairement une possibilité de victoire aujourd'hui pour l'Ukraine. C'est possible, mais ce n'est pas sûr.
Donc, vous dites attention à ne pas pécher par excès d'optimisme. C'est vrai que depuis le début de la guerre, il y a eu ces réussites ukrainiennes que vous mentionnez, mais aussi des victoires côté russe.
Tout à fait. D'ores et déjà, on peut évoquer la prise de Mariupol, qui est aujourd'hui quasi complète.
Mariupol, 450 000 habitants avant la guerre, est désormais en ruine et sous contrôle russe.
Il y a bien entendu le fait que maintenant, en ce moment même, à l'heure où on parle, l'oblast de Lugansk et de Donetsk, les deux oblasts séparatistes, sont pratiquement entièrement sous le contrôle russe, avec un réel risque d'enveloppement des forces ukrainiennes qui restent dans une poche dans cette région. Il y a également tout simplement toute la bande côtière de la mer d'Azov qui est désormais au contrôle des Russes. Et ça, c'est pas une petite victoire, entre guillemets, pour les Russes. Néanmoins, on analyse une victoire non pas aux prises, mais au but de guerre. Et là, il faut bien noter que les Ukrainiens ont été capables de mettre en échec le but de guerre de la Russie, qui était de faire une annexion complète à court ou moyen terme de l'Ukraine.
On sait que la question de l'armement sera cruciale dans les mois à venir. Les Ukrainiens sont désormais très largement soutenus par les Occidentaux. On a évoqué les fameux canons César français dans notre épisode d'hier et au début de ce podcast. Johann Michel, quel est aujourd'hui le rapport de force ?
Alors, déjà, le nombre de pièces d'artillerie dans l'armée russe, comparativement à l'armée ukrainienne, est au début du conflit supérieur, il y en a beaucoup plus pour l'armée russe. Maintenant, ces canons modernes qui sont livrés par l'Occident, que ce soit les canons César, que ce soit les canons d'origine allemande ou américaine, et ils ont une portée que n'ont pas la majorité des canons russes. Nos canons sont supérieurs en termes de portée et de précision, mais ils restent trop peu nombreux. Le problème, c'est que les Russes, ils ont également des lance-roquettes à longue portée, de l'artillerie à longue portée, et si les Russes savent où se trouvent ces quelques canons et qu'ils décident de noyer cette zone sous les tirs de lance-roquettes, ils peuvent malheureusement détruire ceci en une après-midi. On a une vision limitée de l'armée russe, mais les stocks restent énormes. Et malheureusement, côté ukrainien, on commence à avoir des problèmes d'approvisionnement en munitions. Maintenant, ils ont un avantage énorme qui est le fait qu'ils utilisent des munitions occidentales. Ça nous permet à nous d'en livrer davantage.
Ces livraisons de munitions, est-ce que c'est ça qui va permettre les contre-offensives qu'on a évoquées au début du podcast ?
Alors en fait, il faudra, de toute façon, pour résister aux offensives russes, pour lancer des contre-offensives, il faudra à l'armée ukrainienne des munitions. Et la consommation de munitions est celle d'un conflit de haute intensité, c'est-à-dire une consommation démentielle. Donc que ce soit pour la défense ou pour l'offensive, il faudra des munitions à l'armée ukrainienne. Maintenant, c'est la seule chose qu'il faut à l'armée ukrainienne pour pouvoir lancer ces contre-offensives. Et c'est là où, notamment, les armées d'Europe centrale, en fournissant des chars, des véhicules blindés, de l'équipement anti-aérien, c'est là où tout ça, toutes ces livraisons, qui sont quand même massives, font que l'armée ukrainienne, dans quelques mois, le temps qu'elle absorbe ces nouveaux équipements, elle sera peut-être en meilleur état qu'aujourd'hui pour lancer une offensive. Mais là, entre-temps, il faut qu'elle arrive à conserver ses unités. Et c'est là où c'est un équilibre compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on livre rapidement et que ces troupes se forment sur des nouveaux équipements, ce qui leur permettront dans quelques mois de lancer des offensives qui pourront peut-être réellement mettre à mal le plan russe au Donbass et ailleurs.
Donc si je résume, les projections sur une éventuelle défaite russe s'appuient sur la capacité de l'Ukraine à mener et gagner des contre-offensives dans les prochains mois, avec, on l'a compris, beaucoup de points d'interrogation. Mais vous l'avez rappelé, Johann Michel, il y a gagner la guerre et gagner la guerre. J'ai comme une intuition sur ce que vous allez me dire à ce stade du podcast. La guerre n'a pas commencé en février dernier, mais en 2014.
Tout à fait. Il faut comprendre que février 2022 nous a juste informés sur les buts de guerre. Il ne s'agit pas du Donbass, mais d'une guerre de conquête dont l'objectif à long terme est bien l'annexion de l'Ukraine. On oublie que les frontières telles qu'elles sont aujourd'hui datent en réalité de 2014, c'est-à-dire du début de l'invasion russe de l'Ukraine dans ces frontières telles qu'elles sont reconnues, donc la Crimée et les provinces de Lugansk et de Donetsk. Il est tout à fait possible que cette étape se termine avec la Russie ayant gagné simplement davantage de territoires dans une région comme du côté de Kherson, mais ayant perdu des territoires ailleurs.
Autrement dit, le nombre de zones de combat pourrait se réduire sans qu'il ne cesse complètement.
Alors, les zones de combat ont en réalité déjà été réduites depuis mars. Mais en fait, tant que les Russes n'auront pas abandonné leur objectif de conquête d'une partie de l'Ukraine ou de démantèlement de l'Ukraine, la guerre peut tout simplement reprendre après un cessez-le-feu. Et c'est ça qui nous inquiète le plus, en fait. C'est qu'un cessez-le-feu ne soit qu'une pause. Et la question de comment ce cessez-le-feu sera négocié et dans quelles conditions l'armée ukrainienne et l'armée russe sera au moment où celui-ci apparaîtra, c'est ça qui fera la différence pour savoir si cette guerre se terminera un jour, en fait.
Parce qu'une pause pendant un cessez-le-feu permettrait à la Russie de reconstituer ses forces ?
Tout à fait. Les contre-offensives russes actuelles montrent que c'est encore un animal qui peut faire très mal. Et ça va dépendre de ce que les Russes veulent faire. S'ils décident de geler et de se replier sur des positions plus défendables, on repart sur une guerre de plus longue durée. Et vu que c'est pas du tout sûr que notre industrie de défense puisse soutenir l'Ukraine de cette manière-là, parce qu'on n'est pas capable de produire autant de canons que les Ukrainiens en consomment, autant d'obus, autant de missiles, le problème c'est que l'armée russe, dans l'état actuel, elle a souffert de ces offensives, elle a perdu des hommes, elle a perdu des cadres, elle a perdu des équipements, ils sont fatigués, en mauvais état. S'ils font une pause maintenant, en fait, ils vont simplement permettre de réparer leurs véhicules, entretenir leur matériel, leurs hommes pourront se reposer, ils pourront dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, s'ils ont appris, repartir à l'offensive. S'ils conservent des territoires, pendant ce temps-là, l'Ukraine aura été affaiblie économiquement, politiquement et démographiquement. Et c'est pour ça que les Ukrainiens veulent gagner maintenant.
Alors, je vous pose la question avec prudence, parce que j'ai bien compris que la réponse était nuancée. Johann Michel, à quel moment pourra-t-on parler de victoire pour l'Ukraine ?
Alors, deux éléments de réponse. D'abord, même si les Russes perdent, le fait que l'Ukraine n'ait pas réussi à arrêter les forces russes à ses frontières aura des conséquences sur des dizaines d'années à venir. Déjà, un simple coup, les destructions, les ponts, les champs qui sont ravagés. Leur production agricole, par exemple, est particulièrement impactée. Impact également sur l'équipe de l'armée. Exemple, il y a énormément de communication par les groupes de volontaires comme le bataillon Azov, mais c'est un d'entre eux, qui ne font pas partie complètement de l'armée régulière. L'armée régulière, en comparaison, communique assez peu pour des questions de sécurité. Ce qui veut dire que dans les mois qui viennent, les bataillons de volontaires auront un impact politique démultiplié par rapport à leur efficacité réelle. Ils seront les héros de cette guerre, si vous voulez. Donc, peut-on parler de victoire dans ces conditions ? De toute façon, la victoire pour l'Ukraine sera à relativiser dans tous les cas. Maintenant, voilà, on pourrait parler de victoire ukrainienne si les forces russes se retirent des provinces séparatistes, si elles reviennent à la situation pré-février, ce serait déjà, à mon sens, pas mal. Mais voilà, en fait, ça va dépendre de ce que l'Ukraine considère être une victoire.
Tout ça, c'est pour que la bataille de 2022 ne soit pas qu'une étape pour Vladimir Poutine, comme vous le disiez tout à l'heure.
C'est exactement ça. L'important pour nous, comme pour les Ukrainiens, c'est de faire en sorte que 2022 soit la fin de quelque chose et pas qu'en 2024 ou en 2025, l'armée russe décide à nouveau d'envahir l'Ukraine en partant simplement de meilleures positions et grâce aux conquêtes qu'elle aura réalisées là, ces derniers mois.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Si je vous suis bien, Johann Michel, l'Ukraine, soutenue par l'Occident, se bat en fait autant contre la Russie que contre l'impérialisme russe.
Oui, l'enjeu, c'est bien de mettre fin à cet impérialisme poutinien, cet impérialisme russe, et de leur faire accepter la perte d'une partie de leur ancien territoire, comme les Allemands ont arrêté de se battre pour l'Alsace et la Moselle. Cela peut passer par un effondrement réel de l'armée russe, avec une défaite vraiment cuisante qu'ils sentiraient, et qui pourrait avoir des conséquences suffisamment lourdes pour ça, ou un échec du projet autocratique poutinien. Ce qui n'est pas impensable non plus, une défaite militaire en Ukraine pourrait avoir un impact politique majeur. Et c'est d'ailleurs pour ça que Poutine n'a aucun intérêt à faire en sorte que cette guerre s'arrête et que les objectifs qu'il a affichés depuis des années ne soient pas atteints.
Et quel pourrait être le rôle de l'Occident pour atteindre cet objectif ?
Tout d'abord, continuer notre soutien à l'Ukraine. L'Ukraine, comme je le disais, elle peut avoir les moyens de l'emporter, mais uniquement si elle est soutenue. Son industrie de défense ne pourra pas, est dans un mauvais état maintenant, et elle ne peut pas, elle seule, continuer la lutte contre un pays qui est démesurément plus grand qu'elle. Il faut qu'elle ait les moyens d'obtenir une vraie victoire qui garantisse une vraie paix. Et s'assurer qu'au moment où les combats cessent, on aide suffisamment, donc ça c'est le deuxième point, s'assurer qu'on aide suffisamment l'Ukraine à se reconstruire, si on les aide à se reconstruire après-guerre, et que leur économie est dans un meilleur état dans 10 ans que ne l'est l'économie russe, alors pour la Russie, comme pour toutes les dictatures de la planète, ce sera la preuve qu'il ne valait mieux pas faire une guerre d'annexion et que c'est dans l'intérêt de personne. Parce que sinon, la Russie pourrait s'en prendre à d'autres.
À qui d'autre, par exemple ?
Par exemple, le Kazakhstan. On a vu des troupes aéroportées venir soutenir le régime il y a quelques semaines, en fait, avant la nouvelle invasion de l'Ukraine. Elles ont été raccompagnées un peu après à la frontière, mais le Kazakhstan pourrait faire partie. C'était un ancien territoire russe. Il y a des minorités russes. On y distribue des passeports russes. Voilà, il y a tout un cocktail qui laisse songeur, dirons-nous.
Et dans l'hypothèse où on ne parvient pas à une victoire définitive, un prochain conflit comme par exemple celui du Kazakhstan pourrait être beaucoup plus menaçant pour l'Occident et pour la France ?
Tout à fait. On a fait le choix de ne pas payer. À partir des années 90, on n'a pas payé pour conserver des stocks de vieux matériel ou on n'a pas non plus payé pour avoir les moyens de pouvoir reconstituer des stocks. On est parti du principe qu'on aurait des années pour voir venir ce genre de conflit interétatique. On les a eues ces années, mais on a aussi fait le choix de ne pas vouloir regarder ce qui se passait et on n'est pas remonté en puissance. D'ailleurs, depuis le début de ce conflit, on n'a toujours pas pris les dispositions pour faire une remontée en puissance industrielle. Et j'évoquais la question du Kazakhstan ou d'autres endroits où nos intérêts seraient immédiatement, directement menacés. Par exemple, pour la France, le Kazakhstan produit de l'uranium. Il produit, c'est un des plus gros producteurs d'uranium au monde.
L'uranium qui sert à alimenter les centrales nucléaires.
Tout à fait. Et si on rigole doucement en voyant les difficultés des Allemands qui ont parié sur le gaz russe, on rigolerait beaucoup moins si l'uranium kazakh devenait soudainement tout aussi russe.
On voit bien le scénario catastrophe que vous êtes en train de nous dérouler.
Ah oui, en fait, il faut. C'est un scénario catastrophe, mais justement, en aidant l'Ukraine, on fait en sorte de limiter les chances que l'impérialisme russe soit un problème dans les années qui viennent. Il faut s'assurer que les Russes sont dans un tel état après ce conflit qu'ils ne peuvent pas se permettre ce type d'aventure ou qu'ils n'ont même pas envie de le faire.
Tout ça n'est pas très rassurant.
Ah, mais non, je suis désolé, je ne suis pas un type très rassurant de manière générale.
Vous n'êtes peut-être pas très rassurant, mais passionnant sur ces enjeux cruciaux pour l'avenir du monde. Merci beaucoup, Johann Michel. À bientôt dans La Loupe.
Je vous en prie. À bientôt.
Quant à vous, chers auditeurs, je vous rappelle que pour suivre toutes nos analyses sur le conflit ukrainien, il vous suffit de vous abonner à l'express.fr. Le premier mois est offert en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous mettre des étoiles. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Benveniste et Margot Lanuzel. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.